Avant de commencer l'émission, petit message pour vous dire que nous serons en live le vendredi 12 avril à 19h30 à Paris, au Club de l'Étoile, pour vous diffuser Les Ailes de l'Enfer de Simon West, suivi d'un enregistrement d'un podcast en live. Informations et réservations dans la description de l'épisode. Et merci encore au Club de l'Étoile de nous accueillir pour ce premier live. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Les années 2010, la surpopulation des réseaux sociaux et de ces groupes de fans de tout et n'importe quoi, souvent des hommes bloqués en 89, passant leur temps en convention et sur YouTube à nous casser les couilles pour des sujets nuls comme « C'est pas mon Star Wars, c'est pas mon Jurassic Park, c'est pas mon Terminator, la VF c'est super, Spielberg le GOAT ». Après un reboot en 2016 de la franchise doudou des gamins des années 80, SOS Fantôme avec le casting féminin du SNL, qui n'était pas trop mal mais malheureusement démonté par la mauvaise foi lunaire d'un groupe de fans ayant encore dit « C'est pas mon Ghostbuster, en plus il y a des zouzes », c'est complètement affreux. Sony, Ivan Trettman et son fils ont écouté les podcasts, lu les forums, ont écumé les threads Twitter et se sont dit que peut-être ces gens qui sont bloqués avant la chute du mur de Berlin ont peut-être la clé pour permettre un retour de la saga sur les écrans avec une possibilité d'engranger un maximum d'argent. Cette solution a été trouvée et qu'elle s'appellerait Ghostbuster Afterlife ou SOS Fantôme l'héritage dans nos contrées. Je suis Luc Lognac et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non SOS Fantôme l'héritage de Jason Trettman mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Award. Bonsoir Marvin.
Bonsoir, c'est pas mon Ghostbuster.
C'est pas mon Ghostbuster. Bonsoir Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin.
Ah, bonsoir tout le monde.
Mais c'est pas mon Ghostbuster non plus.
Ouais, bah c'est pas mon Ghostbuster. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu.
Oui, bonjour. Moi j'aime bien.
C'est mon Ghostbuster. Vite fait, on avait déjà parlé du coup du Ghostbuster de 2016 qui avait été sauvé de la shitlist. Vite fait, votre relation sur la franchise. Et je vais demander avec Manu. Manu, comment est ta relation avec la franchise Ghostbuster à la base?
Bah, c'est possible, je crois que j'étais là pour le 2016, donc j'ai dû en parler. Bah, c'est des films de mon enfance qui étaient pile poil dans les bonnes dates, quoi. Pour les avoir saignés en VHS quand j'étais gamin. Des bonnes affinités avec, surtout le premier, parce que le deuxième Viggo et les Carpates, ça n'a pas très bien vieilli, j'ai envie de dire. Mais pas forcément l'attachement qui ferait que quand ils ont annoncé un casse de meuf, mes poils se sont hérissés, tu vois. J'ai plutôt bien aimé le 2016. Donc là, j'attendais le retour. J'attendais de voir avec un petit peu d'attente.
Ouais,
pour... C'est le mot que je cherchais, c'était assez ça.
Oui, la curiosité de reprendre un peu la formule, disons, à l'ancienne, quoi, entre guillemets. Quoi.
Ouais.
Marvin, de ton côté?
Non, inexistante quasiment, mais en fait, le problème, c'est que plus on fait ce podcast et plus je me rends compte que je suis passé à côté de toutes les franchises auxquelles les gens se rattachent. Mais vraiment, genre,
grave.
Au point où vraiment, aujourd'hui, je me demande ce que je regardais, quoi. Genre Home Alone, j'avais jamais vu Ghostbusters, j'ai vu vachement tard. Enfin, là, il y a plein de trucs comme ça, j'ai pas. Donc non, aucun attachement parce que juste, je pense que j'ai vu ça trop tard, c'est sûr. Donc non, pas trop de. Je suis même pas persuadé d'avoir. En tout cas, ou alors j'ai des souvenirs très furtifs. Je sais même pas si j'ai vu Ghostbusters 2 en fait. Je suis même pas sûr.
Ok.
Hein?
Le slime dans les égouts, tu vois.
Mais je suis pas sûr, tu vois. Non, vraiment pas d'attachement. Mais par contre, j'aime bien le 2016. Voilà, je le dis tout de suite. Hein,
Donc déjà, finalement, un Terrence Malick Zouz dès ses 5 ans.
Mais même pas, je regardais Magic Warriors à la rigueur, tu vois. Des kangourous avec des katanas et tout, c'était cool.
Les Looney Tunes qui font du basket, ça t'a peut-être marqué aussi, non?
Ah putain, Space Jam, le feu, ouais. Le
ça, il a pensé que t'avais vu.
Tu vois, il y a des trucs comme ça, mais par contre, il y a vraiment beaucoup de sagas de doudou que j'ai pas... Je sais pas pourquoi. Mais non, passez à côté.
Ce sera peut-être un thème qu'on explorera dans Shitlist, l'enfance de Marvin.
Oh, vous voulez pas arriver sur ce terrain, je pense. Moi non plus, d'ailleurs.
Non. La psychanalyse à deux balles.
Bah, vraiment pas. Non.
Karim, de ton côté?
Moi j'ai baigné dedans, vraiment. J'ai été victime Ghostbuster gamin, les films, dessins animés. J'ai eu l'Ecto-One en 50 cm en jouet. J'avais des kilos de slime que ma mère détestait quand j'étais gamin. Bon, c'est grâce à ça que j'ai pas d'allergie parce que ça nie à merde. Bref. Mais j'ai grandi dedans, mais j'ai pas un attachement de ouf. J'ai toujours vu ça comme un produit de consommation super cool, qui plaît aux petits, aux grands, ainsi de suite. Hein. Et j'ai jamais été trop entaché sur le fait qu'ils essayent de le faire revivre. Genre 2016, le reboot 2016, film imparfait, mais ça va. En vrai, je veux dire, c'est. Si, j'ai compris pourquoi les gens l'avaient bâché, mais brûlé, voilà. J'ai absolument rien contre le fait qu'on essaie de relancer cette licence-là. Je pense que ça fait partie des produits qui pourraient être un peu intemporels, un peu comme tu fais des reboots de chair de poule aux gamins de maintenant, juste en recodifiant les trucs. Ça pourrait être cool. Donc je suis absolument pas hostile en fait qu'on fasse vivre cette licence-là. J'ai pas de garde-fou vraiment. Je comprends le côté culte, mais il y a pas ce côté. J'ai jamais compris en fait à quel point on mettait Ghostbusters au nu en tant que film, plus en tant qu'événement, en tant que van, en tant que plein de choses, tu vois. Donc voilà. Donc à la base, pas récalcitrant, même au projet de Ghostbusters Afterlife initialement.
En parlant de chair de poule, ils ont tenté hein, de remettre chair de poule avec le film hein, qui était sorti.
Oui, avec
pas longtemps.
Jack Black qui jouait R.L. Stein. Il y a un 2, ouais.
Ça a pas marqué les foules. Hein,
non, mais non, je trouve
ce revival.
Ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché.
Non.
Et là, cette fois-ci, on va se concentrer plus sur le Nepo Baby, Redman.
Alors, Yann, oui.
Oui, forcément.
Ça au vu de la filmo, derrière. Oui, je crois que là...
Il a marqué le cinéma indé, entre guillemets, avec Juno.
Grave.
Ensuite, c'était avant. Avant Juno, il avait Thank You for Smoking. Il avait fait aussi In the Air avec
Jean-Pierre. En fait, ce mec-là, il a la filmo, c'est ma kryptonite, tu sais.
Genre,
le mec a écrit Sundance sur son front, tu vois. Genre... Alors que c'est quand même le fils du réalisateur du chef de Révolution. Enfin, je sais pas si...
Ah oui, ouais, mais il a pas pris les traces de son père de finir
meilleur
ses films avec des lances
dans le cul. Meilleur film d'Anus, quoi.
Anus, Galactus.
Pas la même carrière, mais vraiment, c'est sa filmo, tu sais, Kryptonite. Genre, non. Genre, tu mets Juno in the air, Tully. Non. Genre, non.
Mais du coup, est-ce que t'as vécu la référence au Sélénium dans ce film comme une référence à Évolution ou pas?
Mais en vrai, je pense que oui, tu vois. Je pense que... Attends, mais c'est obligé. Enfin, je vois pas à quel moment...
Ça a pas été pensé.
C'est une vanne, mais bon, j'imagine qu'elle a une origine, tu vois.
Et oui. Karim, de ton côté, Redman, Juno, tout le bordel, c'est...
En fait,
Balek, peut-être.
Ouais, à part Juno, j'ai rien vu. En fait, donc un peu Balek. Moi, honnêtement, je suis passé à côté Jason Reitman. Et on m'a fait bouffer Juno dans ma vie étudiante, justement, dans les années 2009-2010, enfin, dans ces eaux-là. J'ai trouvé ça cool. Et puis, c'est une période, en fait, en plus, sur laquelle je me fie absolument pas en ressenti. Parce que c'était peut-être la pire période de cinéma. Pour moi, j'étais ultra influençable. Tu vois, t'es clairement le connard de Big Bang Theory, tu vois, t'es.
Ah oui, on en est là, à ce niveau-là.
Voilà, tu vois.
C'est dur.
Tu vois, genre, la mauvaise culture geek, comme on l'imaginait à l'époque, parce que tu pensais que t'étais un rebelle, parce que tu disais que Jar Jar, c'était juste un connard, tu vois. Bref, donc, je suis passé à ce côté. Honnêtement, Juno, j'en ai un bon souvenir, mais à revoir. Et le reste, je suis factuellement, quand tu disais, bas les couilles. Et vraiment, c'est même pas tant bas les couilles, c'est juste passé à côté. Et voilà, on n'a jamais suffisamment rechauffé depuis pour j'y retourne dessus, tu vois.
Ça marche. Et Manu, de ton côté, Redman, Juno, In the Air, tout ça.
Redman, Juno, je l'ai vu tard. Je l'ai vu, je sais pas, peut-être en 2015. J'avais trouvé ça plutôt bien. J'avais vu avant In the Air. Je crois que j'ai vu aussi à l'époque. assez plat. Et j'ai vu pas entier, je crois, Tully et Young Adult, qui sont en fait, il y a un truc bizarre.
Le Charlize Theron Universe.
Le Charlize Theron Universe.
Charlize Theron Enceinte Universe.
Très précis.
Cette espèce de mood, ça se fait passer pour une comédie, il y a un petit côté dépressif à l'intérieur. Je me souviens que Young Adult, c'est hyper bizarre dans le mood, mais pas un attachement particulier. Je trouve qu'il essaye de donner un mood Sundance, justement, mais...
Mais attends, c'est même pas qu'il essaye de... C'est qu'au final, il grattait des récompenses à Sundance à chaque fois, en fait. C'était vraiment le réel.
Je me que j'aime bien Juno.
C'est le réel estampillé Sundance par définition, quoi.
C'est le réel qui est texte, hein.
Et pour le coup, je suis assez content qu'il fasse autre chose que ça, parce que...
D'ailleurs, faut remarquer, c'est quand même le sosie aussi, faut pas se gourer, c'est le sosie un petit peu d'Edgar Wright, quand on regarde. C'est ça aussi, ça qui me fait rire aussi avec ça.
Alors, beaucoup de talent en moins. Hein.
Oui, peut-être,
Vous êtes une super maman.
Je sais pas. Avec Trevor, ça va plutôt bien. Phoebe, par contre... Avec moi, elle partage rien.
Ça, c'est normal. C'est une ado, geek, mal dans sa peau.
S'installer ici, c'est peut-être une chance de recommencer à zéro. Je voudrais qu'elle se lâche un peu.
Ça va venir.
fait quoi ici à Somerville ?
On n'a plus d'argent. Mon grand-père nous a laissé une vieille ferme flippante en pleine cambrousse.
Ton père et l'administratif, ça faisait deux. On était toujours à deux doigts de se faire couper le courant. Il nous a rien laissé du tout ? Je ne dirais pas rien du tout.
T'as choisi le break tout pourri ?
C'est le seul qui avait un moteur. Il se passe quoi ici ?
Dans une ville qui est loin de toute faille tectonique, la terre tremble tous les jours.
C'est peut-être l'apocalypse. Egon n'est pas venu ici par hasard.
Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit ? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier ? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre ou un fantôme ?
J'y crois pas. Vous avez entendu ?
Quelque chose s'approche.
Toute la ville est en mode Walking Dead.
Sylvie !
On est fermé.
SOS Fantôme, l'héritage, sorti en décembre 2021, produit avec un budget de 75 millions de dollars par Ivan Reitman et Sony, réalisé par le fils Reitman Jason. Il coécrit le script du film avec Jill Cannon, le scénariste du film d'animation Monster House, et qui réalise donc la suite, c'est ça, Frozen Empire, normalement, ouais. C'est ce qu'on avait dit, hein. Ouais, c'est ça. SOS Fantôme, l'héritage, fait suite directe au SOS Fantôme 2 de 1989 et nous raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans une petite ville dans la ferme du grand-père, et ils commencent peu à peu à découvrir leur lien avec les Ghostbusters d'origine et l'héritage secret légué par leur grand-père, qui n'est autre que Dr. Egon Spengler. Manu, de ton côté, alors, ce retour, je dirais, aux sources de Ghostbusters, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Ouais, bah, je t'avoue que dans mon inquiétude face à la curiosité du retour, il y avait notamment le fait que j'avais bien aimé le 2016, et qui était du coup pas une suite, puisque officiellement, c'était pas le même univers, quoi. Et que, qui était sorti après la mort de Harold Ramis, déjà. Donc je trouvais ça vachement opportuniste quand même le retour, et puis hyper sexiste dans la gestion du fandom. Il y avait cette idée de regarder les meufs, elles n'existent pas trop, et puis on revient sur les vraies bases, quoi. Après, j'avais été chaud du trailer, parce qu'il jouait sur les bons trucs, justement, le petit côté nostalgie avec Ecto-1 qui fonctionnait bien, mais c'était efficace, mais comme il fallait. Et le cast, en l'occurrence, je suis très fan de Carrie Coon depuis The Leftovers.
Ouais, parce que j'aurais été sûr que t'allais le dire, j'aurais été sûr.
Et écoute, au final, je ne l'ai pas vu au ciné parce qu'il a été repoussé par le Covid et qu'après, il est sorti à un moment où je n'allais pas au ciné. Mais je t'avoue que je trouve que le film a réussi à peu près à éviter un certain nombre d'écueils, à savoir la gestion du cast original, que je trouve est relativement bien dosée, qui arrive surtout à la fin, presque superflu, mais qui arrive là pour les fans, mais qui phagocyte pas le reste du film. Et puis... Alors, à la fois une image que je trouve assez sympa et le personnage de Michaela Grace que j'aime beaucoup. Après, il y a le côté adolescent, enfin, son frère, c'est Finn Woodward, du coup, qui joue son frère. Mm-hmm. Alors, déjà, la Stranger Thing mania rapidement, une fois la première saison passée. Mais je sais pas, je trouve que son arc et son personnage sont vraiment un petit peu trop superflus pour rajouter de l'intrigue adolescente, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'agir jusque-là. Mais moi j'aime bien, je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû voir 4 fois, en même temps je l'ai vu 2 fois en 2 mois parce que je l'ai montré à ma soeur il y a 2 mois. Mais je trouve qu'il réussit bien à faire cette espèce de... Alors c'est clairement l'idée de Star Wars 7 en refaisant la même chose que l'original, puisqu'on a repris la même menace, on a rajouté quelque chose de cyclique, justement avec cette idée de c'est cyclique, c'est pour ça qu'on refait la même chose. Je trouve qu'ils marchent sur des œufs, mais qu'ils en font pas trop. Et puis après, il y a cette scène finale où on va voir le retour d'Harold Ramis qui était déjà là au début, dans l'ombre, mais qui là revient officiellement en fantôme. Et c'est pareil, c'était casse gueule, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal en le faisant pas parler. Et en faisant un truc dont l'hommage fonctionne. Au-delà de ça, je trouve que le film, enfin l'esprit de Ghostbusters de base, il y a beaucoup du SNL, c'est beaucoup plus drôle. Là, je suis assez chaud des blagues de McCadagrez, j'ai beaucoup l'humour mathématique et des choses comme ça. Mais à côté, j'ai l'impression qu'ils sont un peu passés à côté du potentiel de leur casting. Je trouve que le personnage de Paul Rudd est nul à chier.
Il est pas là, en plus.
C'est tout.
Ils en font même pas le personnage de, je sais plus comment il s'appelle dans le premier, qui devient le maître, enfin le serveur de la porte, quoi. Il y a même pas cette densité de personnage, alors que bon, il y avait quand même du potentiel. Je trouve que l'histoire de Carrie Coon, l'histoire familiale fonctionnerait si j'avais pas revu la même il y a 2 semaines dans Madame Web, où l'héroïne passe tout le film à détester sa mère parce qu'elle l'a mise en danger, elle l'a abandonnée, et pas avant de se rendre compte qu'en fait elle l'aimait. Et du coup, c'est le même plot, ça m'énerve. Et la semaine dernière, c'est pareil, on a revu Godzilla, il y a le podcaster. Et du coup, en fait, il y a vite un certain nombre de tropes des années 2000 à 2020 qui s'installent et qui montrent une espèce de... Enfin, qui montrent les ficelles d'une machine un peu lourdingue, quoi. Donc, j'en reste au fait que j'aime bien le film, mais presque accidentellement, parce que... Il y a plein de trucs qu'il essaye de faire ressortir, et notamment à partir du moment où on passe le générique et que les deux pauses génériques, bah, c'est de l'ancien casting, et que c'est du fanservice, et que c'est là pour nous montrer, regardez, dans le site, on revient vraiment avec la caserne, avec New York et tout. Et en fait, j'ai pas envie d'aller par là. Je trouvais que l'esprit de celui-là fonctionnait à peu près, mais ils auraient dû s'arrêter là, en fait. Ils auraient dû conclure l'histoire, faire un hommage à Harold Ramis, et puis s'arrêter là. Et le fait que ça relance une franchise et de la surenchère, moi ça me perturbe et je pense que ça va se planter par la suite.
Ça marche. Merci Manu. Alors juste pour l'origine du projet, parce que c'est vrai que ça a été un bordel. Alors on l'a déjà évoqué dans le Ghostbuster de 2016. C'est vrai que c'est le troisième film de Ghostbuster, normalement était prêt dès les années 90. Il y avait déjà un script d'écrit, puis ils ont abandonné parce que finalement personne ne voulait le faire. Ils ont essayé de le relancer dans les années 2000 avec Ben Stiller, et aussi la troupe d'origine, mais c'est pareil, ils voulaient pas, ils s'en battaient les couilles. Puis il y avait Bill Murray et Harold Ramis qui pouvaient pas se piffrer. Et pour le coup, après, en fait, ils ont eu essayé de le voir en les années 2010 pour essayer de le relancer encore avec un nouveau scénario, parce que le scénario qu'ils avaient écrit a été réutilisé dans le jeu vidéo de 2009.
Le fameux jeu vidéo, ouais.
Moi, je sais pas, j'ai pas
eu. Pareil que c'est pas mal. J'ai toujours entendu que c'était plutôt pas mal. Ouais. Alors, c'est un truc. C'est un truc sans trop de moyens, hein, mais...
Oui, c'est un truc fauché, hein.
Ouais.
Mais à ce qui paraît, qui était vraiment pas mal.
C'est chelou, parce que tout le monde dit ça, mais je connais personne qui a joué. C'est un truc qui me bute avec ce jeu. Il y a une légende comme
ça.
Ça
fait partie de ces légendes urbaines, genre, personne, pas mal, mais tu cherches, personne n'y a joué.
Si, parce que quelque part, t'as dû le voir quand tu écumes les forums de Gamekult de l'époque ou de Gameblog, tu vois. T'as dû trouver quelqu'un qui a dû dire, ah, c'est pas mal.
Ah, mais il y a bien quelqu'un dans le chat qui a joué, là, je suis sûr, avant la fin, dites-nous. Ah ouais. Bon, c'est sûr.
Dites-nous si vous avez joué au jeu de 2009, allez-y. Hein. Le chat.
C'est les reliquats des reviews ciné de l'époque où ça faisait partie de la fun fact qui était balancée à chaque fois qu'on parlait de la licence Ghostbusters. Je pense que c'est pas une fac que les gens ont gardé, tu leur dis.
Il y en a un qui a dit une
non,
fois.
Non, mais je vais faire mon jeu. Pote, voilà. Sans la légende qui s'est construite parce qu'on a tous relayé un truc de François Terrel ou Karim Debbache, tu vois. Je le sens un peu comme ça, tu vois.
Ouais.
Prouvez-moi que j'ai tort.
Mais c'est que le truc.
Attention à ce que tu cites, hein, Karim. Attention quand même.
Ouais, parce que là, on peut perdre un frigo dans l'histoire. Il y a un frigo qui vole.
C'était juste pour être factuel. Rien d'autre, les gens. Voilà. C'était juste pour citer la source. Voilà. Calmons-nous, s'il vous plaît.
Non, mais si ça se trouve, tu vois, c'est qu'en fait, le jeu, il s'est planté. De toute façon, c'est rare que quelqu'un ait joué à l'époque. Mais après c'est et puis Sony a fait bon c'est bon vous me cassez les couilles, on va essayer de trouver un autre projet alternatif, et ils ont demandé du coup au SNL avec Paul Feig de faire quelque chose qui a été un bordel parce que le film a été tourné deux fois quand même, hein, parce que ça a été un gouffre financier aussi ce truc, parce qu'il a coûté quand même pas mal, il était à pas loin des 200 millions de dollars de production, hein, parce que là le budget de celui-ci c'est 75 millions, c'est pas beaucoup, c'est même très peu pour l'ambition du
film. On a plutôt une belle optimisation du budget, je trouve, quand même.
Franchement, il
a un peu de gueule, là.
Il n'y a pas trop d'argent, mais
il a un peu de gueule.
Non, là-dessus, c'est vrai que j'ai été plutôt surpris. Et voilà, on en est là, quoi. Ça a été un énorme bordel, quand même, pour l'avoir. Ce troisième Ghostbuster qui est devenu Legacy Quell, parce qu'on était dans l'époque aussi où Star Wars est revenu, Jurassic Park est revenu, puis d'autres franchises à la con des années 90 qui étaient à essayer de tenter d'être revenus aussi. Et finalement, Ghostbusters fait partie un peu de cette vague-là de... Voilà, ouais, vous vous souvenez, c'était génial, c'était super.
Et puis c'est Sony, à l'époque, ils essayaient aussi de faire le truc que moi, j'aurais aimé voir, mais juste le fan, le Jump Street fois Men in Black, quoi.
Exactement.
Et, ouais. Et je pense que l'idée de croiser des franchises comme ça...
Il y a deux très bons films Jump Street, hein, tu sais, ça va.
Il y a deux oui.
Moi, je les trouve très bien. Je suis troisième. Totalement premier degré. Hein.
Pareil.
Je les trouve super. Hein. Non, mais...
Je préfère le 2. Je préfère le 2. Le 2, je le trouve incroyable.
Ah, là, tu vas un peu loin, mais bon, admettons.
Ah, mais moi, tu vois...
Je préfère
le premier, mais dans le 2, il y a la scène d'Ice Cube et de...
Ouais, Ice Cube qui pète un plomb, là, c'est incroyable, ce moment-là, putain, c'est fou. Mais voilà, enfin, après, on en est dans ce bordel-là. Karim, toi, ça a été une découverte, ce film, t'en avais rien à foutre, hein, de ce que j'avais compris, de ton affect à la licence Ghostbusters. Du coup, quand tu découvres ça en 2024, tranquille, pénouze, ça donne quoi?
Ça donne que c'est découvert dans des bonnes conditions, hein, pétard café le matin, c'était bien. J'avais pas trop d'espoir en fait pour le film initialement, parce que en fait j'ai toujours vu, pourquoi je voulais pas le voir, parce que j'ai toujours vu ça. Il y a un concept qui m'énerve, enfin, je vais juste donner le contexte, c'est que le concept qui m'énerve, c'est que je chiais sur les gens il y a quelques années qui étaient en mode ouais, Star 80 c'est trop bien, et là en fait on est en train de vivre nos Star 2000, et ça m'énerve en fait parce que clairement j'ai des publicitaires et des marketeurs qui sont en train d'essayer de me parler et de me groomer limite, tu vois, ça m'énerve. Donc j'ai jamais voulu voir le film parce que je me suis toujours douté que c'était un peu cette démarche là. Bon, je me lance, et en vrai je vais le faire en deux parties. Il y a le film en soi, en vrai, en tant qu'objet à regarder, je veux dire, c'est... franchement ça va, franchement c'est, je suis pas super ok avec le côté scénaristique de refaire une boucle, refaire les mêmes choses ensuite, j'y reviendrai plus tard, mais en termes de film, le film fait 2 heures, je trouve qu'en termes esthétiques il y a des idées, j'aime, ça me fait chier qu'on quitte New York, mais ça me dérange pas de retrouver un côté un peu plus campagne, chasseur de fantômes. Visuellement, il y a des trucs cool, il y a 2-3 idées que j'ai trouvées très marrantes, foutre des roues, faire une voiture télécommandée avec le cache, enfin l'attrape fantôme, il y a plein de petits trucs comme ça. Les acteurs, les gamins sont cool, il y a vraiment une espèce de vibe Stranger Things qui est rentrée dedans, même au-delà du casting, hein. On rattrape des gamins, il y en a une tête, l'autre machin, et ils font des histoires de science, puis des histoires de paranormal. En vrai, je me dis pourquoi pas, ça peut aller. Le film se fait, je mettrais quand même un défaut au film, je trouve que le film, on y fait en deux parties, que la première heure, il se passe vraiment pas grand chose, c'est un peu chiant encaissé, mais globalement, tu passes pas un mauvais moment, c'est bien fait, Gozer, je crois que c'est Olivia Wilde qui fait Gozer, elle a dû se régaler dans son costume, fait de la lumière, t'es content, c'est pas un mauvais moment, en fait, je l'aurais vu au cinéma, je serais pas sorti ultra vénère. Bah si, j'aurais pas été sorti vénère à cause du film, je serais sorti vénère à cause vraiment de ce qu'est le film, c'est juste un projet marketing qui transpire le projet marketing. Moi, j'ai 39 ans cette année, j'avais l'impression que limite le film me punissait en mode ça faut que t'ailles le voir avec ton fils, et en fait c'est simple, à chaque fois tu vas regarder un truc, tu vas lui expliquer pourquoi il comprend pas, parce que toi ça te rappelle comment t'as kiffé quand t'avais 10 ans, et ça m'a gonflé. Moi par exemple le côté fanservice, vraiment il est uniquement fait pour me ramener en salle, pour faire jouer ma nostalgie, et je trouve que le film entier dégouline de ça, et ça m'a rendu le truc, je vais pas dire amer parce que j'ai pas passé un mauvais moment, et ça m'a rappelé des trucs qui étaient cool en vrai, mais ça me fait chier, putain, ça me fait vraiment chier en fait d'avoir la sensation en fait qu'on va juste me pêcher à coup de sentimentalisme et de nostalgie un peu mal placé. Donc le film est devenu quand même assez désagréable au bout d'un moment. Donc c'est pas une super expérience, parce que j'ai vraiment l'impression, techniquement pour moi ce film-là c'est même niveau que Space Jam 2. Vraiment dans ce qu'il veut faire, oui. En fait. Vraiment.
Alors non, n'abuse pas.
Non,
tu l'as fort.
Non, dans le concept.
Non, parce que Space Jam 2 c'est pas un film.
Parce que je raccroche, je suis chez toi dans 10 minutes.
Tu pètes la gueule.
En ressenti de ce qu'a voulu me faire comprendre le film dans sa démarche, pour moi c'est du même niveau. Alors en termes de qualité de film.
Après c'est la même démarche, tu vois, mais au moins il fait
exactement ça. Mais bon. Ouais, mais les deux me gavent au bout d'un moment en fait, parce que je veux dire, j'ai pas d'amour spécialement pour la franchise, et je parle même pas de respect de la franchise pour soi, mais juste en vrai, il y avait moyen de conjuguer ça un peu mieux, tu vois, qu'on refasse un film Ghostbuster, et évidemment que c'est fait pour taper mon sentimentalisme et nostalgie, et évidemment que je suis prêt à être docile un peu avec ça, tu vois, mais pas à ce point-là. Pas au point de me ressucer, revomir tout ce qui avait déjà été fait, et en plus, un truc qui me manque par contre moi dans le film, c'est ce côté justement avec l'humour du SNL, en fait, je veux dire, c'est moi j'avais mes Ghostbusters pour les vannes de Bill Murray, pour cette dynamique d'adulte qu'il y avait, tu vois, ce côté un peu tocard à certains moments, très scientifique dans l'autre. Là, c'est compliqué pour moi, tu vois, tu sais, au début, tu vois, de m'attacher à des gamins et d'être dans ce délire-là, tu vois. Et en plus, dernier gâchis, en vrai, un des trucs qui m'avait dit pourquoi pas, parce que qui aurait pu me faire aimer le film, c'est Paul Rudd, parce que techniquement, ce mec-là me fait rire, je l'aime bien, tu vois. Et juste là en tête d'affiche, il sert à R, il doit avoir 3 lignes de texte, j'exagère à peine, et c'est dommage, c'est du gâchis. Donc ça, et moi justement, contrairement à Manu, tu vois, c'est toute la partie, fin du film, où justement on te remet des couches en fait sur tout ce que tu voulais voir jusqu'à la deuxième post-crédit où il y a Sigourney Weaver, qui refait le test de cartes en reparlant au passé du truc machin. Non, c'est bon, moi c'est, ça m'a achevé personnellement. Alors je dis pas, hein, je dis pas que c'est pas bien de kiffer vraiment parce que je peux comprendre, mais moi au bout d'un moment, vu que je trouve qu'il y a beaucoup de projets comme ça et qu'en ce moment, pas de bol, je regarde le film avec 3 ans de retard et on baigne en ce moment complètement dedans. Je veux dire, c'est, on me rappelle, regarde comment c'était quand t'avais 25 ans, Karim, tu vois, c'est stop, non, c'est fini, tu vois. Donc non, ce film est en fait arrivé vraiment dans le tiers moins pour moi. Donc je ferai vraiment quand même une distinction parce que c'est pas un mauvais objet filmique ou pas, c'est pas un mauvais divertissement. Tu retires la surintellectualisation de merde que je peux faire l'INIA. Tu, voilà, j'ai pas fini vraiment vénère, le temps m'a pas paru long et tout, c'est cool, mais j'arrive pas à valider le concept. Surtout qu'en plus, bah, en fait, ils ont exactement ce qu'ils voulaient, ils relancent le truc. Et bah, en fait, c'est, j'en ai un peu marre, en fait, tu vois, et je sais que ça ne changera jamais, hein, que je me plains pour rien, tu vois, mais cette espèce de revival à chaque fois, tu vois, où bah, ça bute aussi des fois la créativité, des trucs comme ça, ça me fait un peu chier, surtout que là, en plus, vraiment, c'est la première fois de ma vie, ça m'arrivera sûrement qu'une fois, où je suis vraiment victime de ça, parce qu'on va vraiment taper sur les trucs qui m'ont touché, moi. Donc voilà, donc c'est un film qui est pas si mal, en vrai, et je peux comprendre qu'il soit pas fait défoncer, mais moi, ça m'emmerde.
Le film a cartonné, hein. Le film a cartonné aux États-Unis, mais pas dans le monde entier en fait, parce que c'est vraiment Ghostbusters, c'est vraiment une licence pour le coup, je pense, qui est très anglo-saxonne, qui est très américaine, et que ça parle vraiment beaucoup à ce public-là, plus que le public européen finalement. Et mais aussi, alors, il a fait 197 millions de recettes. Alors, j'ai lu qu'il y avait 207, ouais, c'est à peu près ça. C'est en gros 129 millions de dollars engrangés aux États-Unis. Donc, clairement, ils ont rentabilisé leur budget. Mais c'est vrai qu'après, le problème pour le film d'exploitation, c'est que c'est sorti aussi en décembre 2021. Et il me semble de souvenir qu'on n'avait pas encore totalement, en tout cas dans le monde, ouvert les salles. Tu vois, en Chine, je crois que c'était encore fermé. En Europe, en France en tout cas, on était encore sur les sorties où les salles étaient à moitié remplies parce que c'était encore la limite. Je crois qu'on avait le truc d'une place,
Pass sanitaire.
Ouais, c'est ça. Et puis il y avait le pass sanitaire, c'est il me semble. Encore, on était vraiment sur la fin parce que c'est réglé en 2022, mais voilà, on était encore sur ce truc-là. On me précise un chiffre box office mojo, effectivement. Merci pour le stage. Mais voilà, effectivement, donc il y a une réception ultra positif du public, par contre. Ça, c'est vrai que c'est un film qui a... Quand tu regardes les avis, globalement, en grande, très grande majorité, les gens adorent ce film. Vraiment.
Mais c'est normal. Mais... ouais, mais pourquoi? Non, parce que...
Nostalgie.
Mais pas que.
Oui, oui, Stranger Things aussi.
Non plus.
Oui, mais tu m'expliqueras, Marvin, tu m'expliqueras. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi.
C'est évident, c'est par rapport à 2016, c'est pour ça qu'il l'adore.
Ah oui, oui, il y avait ça aussi, ouais. Mais après, la presse, par contre, effectivement, alors, ses côtés anglo-saxons étaient beaucoup plus clément, je pense, mais c'est vrai qu'en France, bon, le film, il est arrivé, il y a Libération, tout le monde, ils se sont dit, c'est de la merde, bon, faut pas faire ça, c'est dégueulasse, bon, bref, comme d'hab, quoi. Mais ouais, ça a été quand même un vrai succès public. Finalement. Marvin, pour finir sur ce film incroyable, vas-y, dis-nous tout.
Je sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec Karim globalement sur le principe peut-être de la nostalgie bait. Oui, qui est un truc qui est quand même très très gênant. Après, c'est le principe du Legacy Quel, quoi. Tu vois, ce truc qui fleurit depuis des années et qui est en fait littéralement le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est... je vais récupérer des licences populaires, toujours ancrées dans la même époque, et puis je vais essayer de les faire avancer, parce qu'il y a quand même une volonté de les faire avancer. Mais bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que bah, peut-être que le public ne vient que pour le caméo, quoi. Tu vois, il attend éventuellement de retrouver ce qu'il avait vu dans les films précédents, et du coup, bah, tu es obligé de faire du surplace dans ce film-là. Et ça crée une dichotomie très bizarre dans Afterlife, parce que t'as d'un côté le film qui a un poil de personnalité et qui se tient plutôt bien sans faire de référence au reste. Et puis, t'as toute une surcouche infernale où, bah ouais, en fait, on est obligé de te rappeler en permanence que ça appartient à la licence Ghostbusters. Et en plus de ça, je pense qu'on peut faire ça correctement, tu vois. Je pense qu'on peut aller puiser des références qui sont peut-être un peu surannées ou peut-être, extrêmement ancrées dans les années 80 et qu'on peut en faire quelque chose de digeste, tu vois. C'est possible, ça existe. Mais dans ce film-là, c'est hyper compliqué de la manière dont c'est introduit, tu vois. Je veux dire, je vais pas vous refaire le discours, tout le monde l'a remarqué au moment du film, rien que l'apparition, l'entrée dans le champ du cast original, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, tu vois, je veux dire. Moi, honnêtement, vu comment le film était parti, tu vois, dans la nostalgie, moi, à ce moment-là, j'attendais plus qu'un truc, c'est qu'éventuellement, tu les ramènes en les iconisant. Non, mais tu vois, tu fais un truc. Je sais pas, moi, tu fais un truc. C'est pas juste, tu rentres dans le champ comme si t'étais sur une... tu vois, sur les planches, quoi. Genre, hey, au fait, on est là. Non, mais c'est pas possible de faire ça. Tu vois, ça, il y a absolument.
Voici le cast originel.
Non, mais il y a vraiment aucun effet à ça. Et puis après, à côté de ça, bon, t'as tout le truc du genre, oui, on a repris le méchant d'origine, machin. Bon. C'est un gigantesque métafilm, comme tous ces trucs-là, qui sont conscients de ce qu'ils font, et qui, en plus, te racontent une histoire qui, à mon sens, est quand même un poil gênante, hein, je suis désolé. Mais voilà, l'embrouille Bill Murray, Harold Ramis, puisque, bon, bah, la fameuse histoire, c'est en fait, si tu veux regarder, le film, il te raconte presque l'histoire de ce qui s'est passé pendant toutes ces années, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont partis faire leur carrière de leur côté et qui ont dit « Ghostbuster, on n'en veut plus ». T'en as un qui voulait faire Ghostbuster, qui est resté un petit peu dans son coin. Et donc, il y a eu embrouille, quoi. Il y a eu un conflit ouvert, quand même, assez vénère par moment entre Bill Murray et Harold Ramis. Tu vois, je veux dire, c'était même un peu gênant. Moi, je suis un peu gêné par le fait qu'il le règle une fois que l'un d'eux est mort. Tu vois. Dire, j'aurais préféré que tu aies cette conversation quand vous étiez tous encore vivants. Tu vois. Dire, là, on ne lui demande pas son avis, quoi. Dire, est-ce qu'il était chaud pour te pardonner ? C'est pas sûr, tu vois. Bon, l'avantage, comme disait Manu, c'est qu'ils lui font pas, ils le font pas parler. Donc, au final, il ne lui dit pas je te pardonne, tout ça. Tu vois, il y a déjà au moins cette décence. Non, mais déjà, ça aurait pu. Hein.
Salut, vraiment, mon pote.
Voilà, au moins ils lui disent ce qu'ils ont à lui dire, lui il répond pas, voilà. Voilà, ça me gêne quand même un petit peu, tu vois, qu'il règle cette histoire en public devant, voilà, dans un film, quoi, ça m'embête. Mais bon, j'ai vu pire, j'ai vu largement pire. Après, par rapport à Jason Reitman, je pense qu'on a vu au travers de sa filmo, alors moi sa filmo, je la déteste, hein. Mais au moins c'est un faiseur solide, tu vois. Et l'avantage, c'est qu'il rentre, on va dire, dans les chaussures de son père, qui était aussi un faiseur solide, en fait. Ivan Reitman, il a beau avoir une filmo un poil prestigieuse, parce qu'évidemment, il y a ces gros noms là-dessus, c'est-à-dire Ghostbusters et Evolution, évidemment.
mais on est là.
En dehors de ça, c'est un faiseur solide, Ivan Reitman. Je mets n'importe qui au défi de me raconter... De remarquer la mise en scène d'Ivan Reitman au premier coup d'œil, c'est pas possible, quoi. Non, c'est, par contre, c'est quelqu'un qui rentre très bien dans le moule hollywoodien de l'époque où il évoluait, et tant mieux pour lui, quoi. Et Jason Reitman, bon, bah, il a l'air d'être un petit peu fait du même bois, quoi. Je veux dire, le film, il fait rien d'exceptionnel en termes de mise en scène ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il fait, il le fait relativement bien. On peut pas enlever le fait que le film est pas moche, les créatures sont pas moches. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas une bouillie atroce numérique ou quoi que ce soit. Il a un petit peu de personnalité dans sa photo, tu vois, il ressemble pas à n'importe quoi. Je trouve que justement ce cadre de la campagne et tout, qui est finalement pas si évident que ça, ça lui donne une espèce, ouais, de petite personnalité à lui, voilà. Donc je pense que Jason Reitman, il est plus ou moins comme son père, quoi. C'est-à-dire, il saura tenir sa caméra, il saura faire quelque chose d'à peu près correct, et de toute façon on n'attend pas d'un film Ghostbuster, je pense, qu'il révolutionne la mise en scène. Enfin, il l'a jamais fait, il le fera pas, quoi. Donc tout ça fait que on est devant un espèce de produit hyper bizarre, quoi, qui existe par moment et qui, bah, par moment, se fait aussi complètement bouffer parce qu'il est censé être, parce qu'il est obligé d'être, quoi. Je n'arrive pas à citer de Legacy Quell, de toute façon, qui fait bien le boulot, quoi. Tu vois, éventuellement Creed, à la rigueur.
Oui.
Parce que Ryan Coogler fait peut-être le film le mieux réalisé de la saga entière. mais à part ça, tu vois, c'est super compliqué de trouver un Legacy Quell qui tient vraiment la route. Donc, qu'il se peut que celui-là soit plutôt du bon côté. Après, il y a quand même des choses un peu puantes dedans qu'il faut rappeler. Alors, j'ai déjà parlé de l'histoire de Harold Ramis. Moi, j'ai quelques réserves là-dessus quand même. On a vu pire, hein, depuis. Donc, disons que ça relève.
Ah oui, tu parles vraiment, oui, de la question aussi morale de faire apparaître le film. Oui.
Alors, moi, c'est pas le fait de faire apparaître un mort sur un film, ce qui déjà est un truc. Moi, c'est juste le fait de régler ses histoires avec lui une fois qu'il est mort. Ça m'embête. Ça, oui. Bon. Ok. La deuxième chose, c'est le discours. Regardez, ouais. On a mis des animatroniques et il n'y a pas beaucoup d'effets visuels numériques, qui est un gigantesque mensonge, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a quelques plans dans les animatroniques, avec le Cerber notamment. Mais en revoyant le film, je me dis quand même que, animatronique ou pas, le rendu est identique. Hein. Clairement, je veux dire, il n'y a aucune plus-value de l'apparition des animatroniques dans Ghostbusters.
Ouais, le côté, ouais.
C'est arrête, il y a deux plans.
Ah, le côté.
Non, mais,
voilà, ouais, voilà,
mais, non, mais
ouais,
je veux dire, dans le sens où ça fait partie de ce discours de menteur qui font passer les animateurs et les spécialistes d'effets visuels pour des glands, quoi. Là, encore une fois. Et ça, c'est chiant. Non, mais vraiment, ça, c'est chiant parce qu'il y avait quand même un gros truc. Hein, je me souviens, l'animatronique, c'était un truc de la promo. Franchement, il y a deux plans, il bouge la tête, le reste du plan, il est en CGI, il faut arrêter les conneries. Et la troisième chose, c'est quand même, comme disait Manu tout à l'heure, qu'il y a la gestion du fandom qui m'embête, en fait. Le film le rappelle très souvent que la vraie suite, elle est là. Au point où, quand même, je ne sais pas si vous l'avez vécu pareil, il y a quand même un moment où ils sont dans un puits où on a une timeline le long du mur, des gens qui traversent avec la lampe torche et qui te précisent littéralement que 2016 n'existe pas. Tu vois, t'as toutes les dates de la saga qui passent. Genre, on passe directement de 84 à maintenant. Tu vois, genre, 2016 n'existe pas, on te le répète en continu. Et ça, c'est bête, quoi. Hein? Ça, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, en tout cas, pour nous, c'est complètement con, mais c'est vraiment histoire de rappeler au fandom, vous inquiétez pas, votre vraie suite est là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage d'avoir lâché, d'avoir lâché 2016 juste sous la pression des gens, quoi.
Si ça se trouve, il va y avoir le multivers.
Non, impossible. Ah bah honnêtement, c'est impossible. Là. Si tu veux flinguer la franchise pour de bon, tu les ramènes de non, mais ils vont pas faire ça, quoi. Donc voilà, je le trouve très inférieur en 2016. Quand même, déjà parce que moins drôle. Voilà, je trouve le 2016 drôle par moment. Alors il y a des choses qui m'insupportent dedans, mais il y a des choses que je trouve très drôles, tu vois. Dans le 2016, effectivement, je trouve que celui-là est pas drôle. Mais alors vraiment pas. Et les moments où il essaie de l'être, c'est gênant.
Il y a une vanne van ou deux qui passe.
Avec ses lunettes sans verre dans le 2016, alors je ne sais toujours pas, mais...
Ah oui.
Oui, c'est ça. Oui, et puis même Chris Hemsworth qui écoute du saxophone sur les photos. Enfin voilà, c'est ce genre de vanne. C'est marrant. Non, mais vraiment, ça me faisait rire, tu vois. Mais par contre, le Afterlife est pas drôle, quoi. Vraiment. Et en fait, il s'en sort bien que quand il essaye pas de l'être. Donc c'est toujours un peu compliqué. Tu vois, tu sens quand les vieux reviennent à la fin, ils font des vannes, ça tombe super à plat. Enfin, c'est compliqué, quoi. En plus, vraiment, ils ont l'impression que tu les as ramenés. Genre, vas-y, mets-toi là. Mais implication zéro. Ça, c'est toujours le problème, moi, Legacy, quoi. Là, dès que t'as un caméo, tu sens bien que. Ouais. Voilà quoi, on est là parce qu'il faut être là, mais bon, implication zéro, éventuellement Ronnie Hudson qui fait un peu illusion, tu vois, parce que ce type a 80 ans, mais il en paraît 50, donc coup de chance quoi, mais vraiment, tu vois, parce que les autres, tu les sens complètement rincés, c'est compliqué, ils servent à rien en plus, dans le dire, hormis régler leurs propres histoires perso hors film, sinon, ils servent à rien quoi, donc bon, voilà, comme je te dis, il y a des choses réussies quand il n'essaye pas d'être malheureusement ce qu'il doit être. C'est bien dommage. Mais oui, enfin, ça reste l'exploitation de la pop culture de la manière la plus froide et cynique possible. Quoi. Quand il est à fond dans son truc, c'est vraiment ça. Quoi. Tu vois, c'est,
ouais, clairement.
C'est le Comic-Con, le truc. Quoi. C'est, voilà.
Comic-Con, le film.
Non, mais voilà, c'est ça. Tu vas prendre une
on
photo.
Vous respecte. On vous respecte. Vous avez vu, on vous respecte.
Ah, donc non, ouais, c'est... C'est l'exploitation de la nostalgie, je trouve ça un peu dommage, quoi,
d'en être là.
En fait, je suis surtout très déçu par la situation, mine de rien, tu vois. Le fait qu'on ait rejeté en bloc le 2016 pour... Le fait qu'il y ait une acceptation énorme, je trouve presque excessive par rapport au 2016 de celui-là, ça dit quand même vachement de choses sur ce public, quoi. Et ça dit pas des bonnes choses dessus, je pense. Donc le film, dans ma tête, il pâtit un peu de ça, tu vois. Peut-être de manière un peu injuste, mais le fait qu'on l'ait vraiment plutôt aimé, après ce que s'est pris le 2016, je trouve vraiment que c'est pas un bon signe, quoi. Vraiment, pas du tout, quoi.
Pour revenir sur ce que Marvin disait sur la gestion de certains personnages, et notamment Winston, du coup. Moi, il y a un truc qui me gêne avec Winston, c'est qu'il y a une sorte de retcon du côté tokeniste du personnage dans les...
Grave.
C'est-à-dire qu'il était clairement là pour le côté tokeniste de la chose, et dans la post-générique de celui-là,
Il
le réhabilite d'une autre façon.
Mais de ouf!
Ils réécrivent l'histoire en le faisant en plus de façon humoristique, parce qu'en gros, ils racontent tout ce qu'étaient les autres personnages. Et il y a le personnage de Jaline qui dit « Et toi, t'étais quoi ?» Et il fait bah, « J'étais le sac symbole. » Alors qu'on sait clairement que c'était le quatrième. Et en plus, ils en rigolent, enfin, ils en jouent de ça dans le 2016, du côté tokeniste de Stone dans le premier.
Ah, mais en plus, il dit
et
genre.
Et là, ils réécrivent l'histoire et ça m'emmerde.
Et puis il dit genre, mais oui, mais c'est moi qui payais la librairie de machin. C'est... En gros, j'ai fait ça pour aider tout le monde. Bah, bon, ouais, ok, quoi. Mais bon, ouais.
Et une seule question reste en suspens. Ce film mérite-t-il la shitlist, Manu ?
Moi, non. Je pense que le prochain, probablement. Je l'ai pas encore.
Ah oui, enfin, oui.
Ça a l'air de se rendre.
On a entendu.
Celui-là, non, je le sauve parce que. Franchement, il s'en sort bien avec ce qu'il avait à faire.
Alors, non pour la shitlist pour Manu, Karim de ton côté.
Putain, je sais pas en vrai. Parce que. Mitigé.
Attends, réfléchis, je réponds avant si tu veux.
Ouais, vas-y, réponds avant.
Marre.
Je laisse réfléchir. Non, mais il a besoin. J'ai sauvé le 2016, donc je mets celui-là dedans. Pour ce qu'il représente, je mets celui-là dedans. Mais c'est même pas pour son manque de qualité ou ce que tu veux, c'est pour ce qui. pour ce qu'il représente et ce qu'il dit de son fandom, je le mets dedans.
Directement dans la shitlist, Karim.
Bah, je le mets dans la shitlist aussi pour le symbole, en fait. Effectivement, si vous avez... alors j'étais pas là, mais vous avez sauvé le 2016, qui est quand même mieux, tu vois.
Tu devais réfléchir, et... Karim.
Non, en fait, je suis. En fait, ce qui est le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'on a, on a vu d'autres, on a déjà chroniqué d'autres, enfin, d'autres films qui ont ce même problème, en fait, de vouloir titiller ta fibre trop fort. Pas le pire qu'on ait vu, c'est ça que ça m'emmerde un peu. Mais on va dire pour le symbole, allez, je vais le mettre dans la shitlist.
Je le mets dedans parce qu'on a sauvé le 2016. Genre ouais, pour moi, ils ne peuvent pas être au même endroit au même moment.
Allez, c'est direct dans la shitlist malgré un sauvetage de Manu. Merci Karim, merci Manu et merci Marvin.
Merci à tous.
N'oubliez pas, vendredi 12 avril, nous sommes en live pour les Ailes de l'Enfer qui sera diffusé au Club de l'Étoile en 35 mm et en VF, il me semble.
En VF,
ouais, oui.
En VF, en version française. Mm. Et nous enregistrons effectivement un shitlist juste après au Club de l'Étoile. Voilà, n'hésitez pas à venir, les places sont.
Donc c'est 14 €. J'ai regardé les prix des photos cringe qu'on peut prendre au Paris Fan Fest avec des stars has-been.
C'est combien?
C'est 3 fois plus cher, donc vous avez pas d'excuses. Hein.
Donc on peut vendre des photos
voilà.
Comme ça aussi.
Voilà, effectivement. Là, c'est 35 balles la photo avec une actrice inconnue de Smallville là. Venez plutôt voir les Ailes de l'Enfer. C'est mieux.
Enfer, avec l'équipe de Shitlist, bien entendu,
en
au
plus.
Grand complet.
Et photos gratuites, vous voulez.
Oui.
Donc,
pour
faire en donne.
Il y en a, en tout cas, je veux pas dire, mais il y a quelqu'un qui sera déguisé en Nicolas Cage, mais je ne dirai pas qui.
Ouais, ah bah c'est pas compliqué. Hein.
Ah ouais, il faut suffit de voir.
Il y en a un seul qui a le capital capillaire pour ça. Hein.
Dans les films.
Ouais, non mais là, bon.
Tout de suite, ouais. Soutenez-nous sur Patreon, vous savez bien, pour avoir l'épisode en avance et les épisodes supplémentaires. C'est les forfaits à 3 € et 5 €, donc le Shitlist Prime, le Shitlist Plus et le forfait Hall of Fame. Voilà, vous avez les stickers en plus qui est à 10 €. On remercie, et puis le remerciement éternel. Donc, on remercie Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je sais plus de quoi on parle la semaine prochaine. La semaine prochaine,
vous parlez d'Annihilation, mais je ne serai pas là, moi.
Ah oui, parce que c'est la sortie de...
Civil War.
De Civil War. Civil War de Alex Garland qui arrive au cinéma, qui a d'ailleurs annoncé sa retraite.
Mais il l'avait pas annoncé avant, déjà ?
Non, là, il arrête de réaliser des films.
Il n'avait pas dit après même que c'était fini, déjà ?
Non. Là, c'est
il semblait avoir déjà vu ça passer, moi.
C'est sa fin. Là, il tire sa révérence en tant que réal, il en a plein le cul. Ça annonce peut-être aussi un problème peut-être qu'il y a eu dans la production de Civil War. C'est peut-être ça aussi.
Ou ça annonce c'est peut-être pas, aussi en fait, que les gens peuvent arrêter, ils ont le droit.
C'est pas
oui, possible aussi, ouais.
Que... Alors peut-être que du coup, Marvin influe sur ma mémoire, mais c'est pas impossible qu'après Maine, il ait dit que son prochain sera le dernier.
Ouais, peut-être. Parce que moi, il me semble qu'après Maine, il y avait déjà ça. Hein. Il y avait déjà J'arrête. Donc,
J'en
suis persuadé d'avoir vu à ce moment-là.
Ok. Mmh. Et bah écoutez, ce sera Annihilation qui était sur. Qui est l'espèce de Stalker 2001 de l'espace sur Netflix.
Les premières grosses exclus Netflix, je crois.
Netflix, hein. Après, c'est vrai que.
Après Bryce.
Il y a un truc avec Alex Garland, c'est que c'est ma meuf qui me disait, c'était Marie qui disait que c'était Dev qui était pas mal comme série.
Dev, c'est hyper bien.
Ouais, c'est pas.
Bah, après, Alex Garland, il a pas écrit des trucs vachement bien, genre Sunshine, c'est pas lui ?
Si, c'est lui. 28 jours plus tard aussi.
Ouais, mais Sunshine, incroyable.
Bah, Sunshine, je m'en souviens plus.
J'adore
ce film, mais c'est.
D'ailleurs, ouais, c'est l'embrouille entre lui et Danny Boyle qui fait qu'il disait qu'ils bossaient ensemble après, ouais. Mais ce duo était fou.
Bah, d'ailleurs, je pense qu'ils reviennent pour 28 ans plus tard, il me semble.
A priori, ils se seraient rabibouchés, ouais. Bah, tant mieux. Non. Du coup, quand
tant
ils sont
ensemble. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Écoutez, ce sera Annihilation la semaine prochaine, donc je crois que c'est Karim, moi et Vesper qui seront là. Shitlistpodcast@gmail.com pour les SAV, rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, également notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. N'oubliez pas de noter mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify, hein, mettez des commentaires incroyables comme objectif numéro 1, abattre l'ennemi.
Voilà, par exemple. Le truc. Ça va.
Ce genre de
5 étoiles, abattre l'ennemi, on est.
Donc on se dit la semaine prochaine, allez salut à tous. Ciao.
Ah ouais.